Je contrôle le temps. Je pense que je dirai des choses qui peuvent l'intéresser, mais j'ai aussi le sentiment de devoir, de risquer de trop dire et pas assez. On verra bien. Donc, il est convenu qu'on réserve un certain temps, au moins un quart d'heure aux questions. Donc, ce sera le cas. J'essaierai de contrôler mon discours. Donc, ça, c'est le titre, rien d'extraordinaire. Mais tout de même, vous voyez qu'ici, j'ai prévu de parler d'acoustique musicale dans Vaucanson et de remonter, parce que dans Vaucanson, évidemment, si on se limite juste à lui, ça ne suffit pas, et de remonter jusqu'au XVIIe, notamment à Mersenne. Il s'est passé beaucoup de choses au XVIIe. Mersenne, c'est la grande époque où on sort de choses qui sont purement une manière de concevoir le monde qui est purement conceptuelle, mathématique, bien logique, mais pas du tout expérimental. Donc le XVIIe siècle, c'est la grande époque de la redécouverte de l'expérience, avec des gens, bien sûr, comme Galilée, mais aussi même Descartes, s'il n'est pas un bon expérimentateur, et puis Mersenne, qui est inévitable en musique, évidemment. Le très grand Mersenne, très bizarre, très curieux, un homme extraordinaire, qui a mille facettes, mais qui est passionnant, qui est à la fois par moments génial et d'autres moments un peu idiot. Nous verrons un peu Mersenne. Donc, on n'évite pas le XVIIe siècle pour comprendre ce qu'a pu connaître Vaucanson. Évidemment, d'aller jusqu'au flûteur automate qui est de 1738 et donc de parler de Rameau. Donc, je parlerai un peu de Rameau. Et on devrait parler peut-être aussi de choses que probablement Vaucanson n'a pas connues, mais qui se faisaient à la même époque. Comme par exemple, j'en dirai un mot, pas plus, s'il y a des questions, j'en dirai plus, à propos du mathématicien Euler, aussi du mathématicien d'Alembert, même, mais d'Alembert a repris la théorie de Rameau, mais du mathématicien Euler qui a fait tout autre chose, et que Rameau ne connaissait pas au temps du flûteur automate, puisque l'œuvre de Euler, qui est en latin, a été publiée en 1739. Enfin, il a pu la connaître après. Donc, voilà, pour commencer cette chronologie, je rappelle que, donc, oui, en effet, je vois Beckmann, qui était ami de Descartes, et qui a probablement a eu des conversations avec Descartes, a suscité l'écriture par Descartes de ce qu'on appelle le Compendium Musicae, l'abrégé de musique, en 1619. Donc, Beckmann a émis des choses, était un des premiers expérimentateurs, même s'il s'est trompé, c'est intéressant quand même. Alors, la très grande, les fameuses harmonies universelles en plusieurs tomes de Mersenne, date de 1637, et il y avait déjà des travaux avant. Galilée, qui est un très très grand savant, inutile de le rappeler, dans son dernier livre, les discours, mais c'est plus long, on verra tout à l'heure, les fameux discours, c'est pas le dialogue sur les deux mondes, hein, c'est le discours sur la mécanique, donc concerne la première journée, c'est quand c'est partagé en quatre journées, concerne la première journée, notamment vers la fin, à des questions d'acoustique qui sont tout à fait intéressantes, parce que quand Galilée parle, il se trompe rarement, ou il bluffe, mais c'est très très intéressant, c'est beaucoup moins bluff que Descartes, c'est beaucoup plus juste, même s'il se trompe. Alors, ensuite on viendra, donc j'en dirai quelques mots quand même, on viendra ensuite à Sauveur, vous voyez que j'ai rappelé ici que Vaucanson est né en 1709, alors là on arrive vraiment au moment où Sauveur a écrit des mémoires sur l'acoustique dans à l'Académie royale. Donc, c'est le mot d'acoustique lui-même a été inventé par Sauveur et c'est écrit dans un mémoire de 1701, je crois, ou 1700, je ne sais plus, enfin de 1700 à 1702. Donc, on en parlera, bien sûr, j'en parlerai. Et puis, 1722, donc c'est le traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels de Rameau. On n'a pas encore à ce moment-là la théorie de Rameau telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'apparaît que dans le nouveau système de musique théorique de 1726, avec une expérience sur le corps sonore. Le flûteur automate, donc 1734-1738, le joueur de tambourin, qui, comme vous le savez, ajoute un tambourin à la flûte, et puis Ce canard digérateur, le terme est amusant, et je l'ai découvert dans un colloque sur Euler il y a 2 ans, mais c'est pourquoi ce sur Euler, c'est bizarre. C'est un truc très marrant, si vous cherchez sur Internet, la première des choses que vous trouvez, c'est des canards digérateurs. Ça, vous en avez plein de canards digérateurs, pas beaucoup de futurs automates. De 1738 à 1774, tous ces engins-là ont disparu, je crois, ont brûlé plus ou moins, c'est dommage. Alors en 1739, Euler publie son essai sur la musique, une œuvre de jeunesse qui a été écrite en fait en 1731. C'est un peu dommage que ça n'ait pas été publié avant. J'en dirai peut-être un mot donc, comme j'ai dit. Puis alors après, vous avez la suite de la vie de Vaucanson. On en a parlé déjà, vous voyez qu'il devient un homme important. Il perfectionne les métiers à tisser en 1745-1755. Et puis en 1747, là j'y tiens parce que, et puis 1752, d'Alembert, les éléments de musique selon les principes de M. Rameau. Je me suis intéressé à ça à une époque, c'est très très bien fait, c'est un très beau livre. D'Alembert est un immense, inutile de le rappeler, et avec sa force d'esprit, d'Alembert reprend la théorie acoustique musicale, la théorie de musique de Rameau, et la schématise évidemment, la simplifie sans doute. On a eu des études là-dessus, mais tout de même, fait une très très belle présentation, et qui m'avait beaucoup séduit au départ. Finalement, Vaucanson est mort en 1782, et j'ai rappelé que ce n'est qu'en fait qu'au siècle plus tard, que pour bien comprendre ce qui se passe en acoustique musicale, il faut attendre Helmholtz. Je suis un passionné d'Helmholtz, et il faut attendre 1863, la théorie physiologique de la musique. On ne peut pas comprendre vraiment ce qui se passe en acoustique avant Helmholtz. Et ceci grâce aussi au mathématicien Fourier qui, à propos d'autre chose, puisque c'était la théorie de la transmission de la chaleur, a développé les fameuses séries de Fourier, qu'on appelle les séries de Fourier, ou la transformation de Fourier aussi, et qui permet de comprendre ce qui se passe en acoustique. Maintenant, évidemment, tout le monde sait, le moindre acousticien de formation utilise les harmoniques de Fourier, etc. Donc je contrôle le temps, j'ai encore du temps, et je propose que nous lisions ensemble quelques textes. Alors j'ai proposé ça, c'est peut-être pas pédagogiquement excellent, puisque quand je faisais des cours, puisque maintenant je suis à la retraite, mais quand je faisais des cours, je faisais pas ça, parce que j'aime bien que les étudiants écoutent, et je préfère ne pas projeter ce que je lis. Mais là, je pense que j'ai affaire à de très grands étudiants, et que ça facilitera la compréhension de lire en même temps, ensemble, cette chose. En même temps, c'est amusant, c'est écrit dans un français que je n'ai pas modernisé ici. Donc, alors, voici comment se présente la chose. Je vais focaliser la présentation sur la notion d'harmonique. Et ensuite, il faudra que je réserve tout de même 5 minutes pour voir ce que Vaucanson écrit lui-même, puisqu'il s'agit de Vaucanson, dans le petit texte qu'il a écrit sur le flûteur automate en 1738. Donc nous verrons ça, il ne faudra pas que j'oublie, parce que sinon, enfin, j'aurais parlé d'acoustique musicale, mais je n'aurais pas du tout parlé de Vaucanson, un peu dommage. Mais vous pousserez à même, évidemment, de lire vous-même avec un œil critique ce que Vaucanson a écrit, si jamais je ne l'ai pas fait. Donc, je remonte à Mersenne, comme je l'ai dit, et je focalise cet exposé sur la notion d'harmonique. Pour une raison simple, c'est que d'abord ça existe, et que d'autre part j'ai souvent rencontré des gens qui me parlaient d'harmonique, tout le monde parle d'harmonique, on sait ce que c'est, encore que les Allemands ne disent pas harmonique, mais disent plutôt son partiel, qui a à peu près le même sens, pas tout à fait. Et je pense quand même que si on n'a pas étudié de près la question, et bien sûr, si on est un acousticien, si on est un IRCAM, je pense qu'on sait. Mais sinon, si on n'a pas étudié la question, on fait des confusions, on fait des erreurs sur la notion d'harmonique. Et il est intéressant de voir comment, historiquement, cette notion est apparue. Et je répète, elle n'est vraiment clarifiée qu'au XIXe siècle avec Helmholtz. Avant, on peut toujours faire des erreurs. Et là, nous verrons justement qu'à propos de jusqu'à Rameau, ce n'est pas encore très clair. Donc, Mersenne entend les harmoniques dans le son d'une même corde. Déterminer pourquoi une corde touchée à vide fait plusieurs sons en même temps. Il semble qu'Aristote a connu cette expérience lorsqu'il a fait la question « Pourquoi le son grave contient l'aigu dans le 8e problème de la 10e section ?» 19e section, vous savez que les problèmes d'Aristote sont en fait de pseudo-Aristote, c'est pas vraiment d'Aristote, mais c'est très aristotélicien. « Pourquoi il devient plus aigu en finissant dans l'11e ?» À quoi l'on peut rapporter le 12e et le 13e problème, et d'où plusieurs autres problèmes de la même section peuvent être entendus, de sorte que cette proposition est fort utile pour la philosophie d'Aristote. Mais il faut remarquer qu'il n'a pas su que la corde frappée et sonnée à vide fait du moins 5 sons différents en même temps, dont le premier est le son naturel de la corde, qui sert de fondement aux autres. Vous voyez que déjà on trouve le terme en filigrane de fondamental, qui sert de fondement aux autres, et auquel on a seulement égard pour le chant et pour les parties de la musique, d'autant que les autres sont si faibles et qu'il n'y a que les meilleures oreilles qui les entendent aisément. Il y a déjà beaucoup de rameaux là-dedans. Donc en bref, quand vous chantez, quand vous en faites de la musique, vous entendez une note d'une certaine hauteur et vous ne vous posez pas la question de savoir si dedans il y a l'octave, etc. Et la quinte de l'octave, etc. Or, ces sons suivent la raison de ces nombres, 1, 2, 3, 4, 5, car on entend 4 sons différents du naturel, dont le premier est à l'octave en haut, le second à la 12e, alors 12e quinte de l'octave au-dessus, j'ai rappelé, où il faut remarquer deux choses, à savoir que nul son ne s'entend jamais plus bas ou plus grave que le son naturel de la corde, car ils sont tous plus aigus, et ça, Mersenne le dit, et ce sera oublié, et certains diront qu'il y a des sons plus graves, ce qui est idiot, et que ces sons suivent le même progrès des sauts de la trompette. Or, ces 4 sons extraordinaires, j'en entends encore un 5e plus aigu, que je vois particulièrement vers la fin du son naturel, et d'autres fois, un peu après le commencement, il fait la 20e majeure. La 20e majeure, c'est la 6e majeure de la 2e octave au-dessus, là, ça va très loin quand même, avec le son naturel, et avec lequel il est comme 3 à 20. Mais il se trompe. C'est moi qui parle, là, en noir, c'est moi. Mais il se trompe sur la cause, attribuant celle-ci aux vibrations de l'air. Vous avez une référence ici, quelqu'un qui s'appelle Muzzini, je crois, qui est une thèse faite par un Suisse alémanique, en allemand, dont j'ai parlé tout à l'heure hors micro, pour ainsi dire, qui a fait une excellente thèse qui s'intitule Généalogie der Klangfarbe, la généalogie du timbre, et dans laquelle j'ai trouvé à peu près tout ce que je savais déjà, et beaucoup plus, et qui est très très bien expliqué, très bien dit. Donc j'ai mis des références, je pourrais signaler cette référence plus tard. On peut télécharger cette thèse qui fait 500 pages à peu près, et qui est excellente. Alors évidemment, on est dans le sujet un petit peu. Donc c'est une citation que fait ce Muzzini. Alors évidemment, c'est là le Mersenne qu'on voit, alors qu'il a dit des choses tout à fait excellentes. Maintenant, il va commencer à dire des bêtises. Les sons qui font la 12e et la 17e majeure s'entendent pour l'ordinaire plus distinctement, ça c'est très bien, parce qu'ils sont plus éloignés du son naturel de la corde, avec lequel le son qui fait l'octave a une si grande ressemblance que l'oreille les prend pour un même son. C'est très très juste, et là aussi, vous avez une chose qui était connue déjà à cette époque, et qui sera repris par Rameau comme principe, puisqu'il dira, un des deux principes, c'est que les octaves se ressemblent. Donc on peut reprendre une note, on peut les changer d'octave, c'est la même chose, pour ainsi dire. Et ça, il faut le justifier psychologiquement et physiologiquement, c'est pas sinon... Tous n'entendent pas les mêmes sons, parce qu'ils n'ont pas l'oreille assez bonne, ou le jugement assez subtil pour les discerner, et pour les remarquer, et parce qu'ils n'y apportent pas assez d'attention, ou qu'ils ne sont pas assez détachés de la préoccupation. Occupations, je pense que c'est les occupations quotidiennes qui ne s'intéressent pas à ça. C'est pourquoi il faut examiner comme il se peut faire que la même corde batte l'air différemment en même temps, car puisqu'elle fait les 5 ou 6 sons dont j'ai parlé, il semble qu'il est entièrement nécessaire qu'elle batte l'air 4, 5, 4 fois, etc. En même temps que le bas une seule fois, qu'elle le bat une seule fois, ce qui est impossible de s'imaginer, si ce n'est que l'on dit que la moitié de la corde le bat 2 fois, tandis que la corde entière le bat une fois, et en même temps la 3, 4, 5 parties, 5e partie, le bat 3, 4, 5 fois, ce qui est contre l'expérience, qui montre évidemment que toutes les parties de la corde font un nombre égal de retours en même temps, car toute la corde étant continue n'a qu'un seul mouvement, quoique ces parties se meuvent d'autant plus lentement qu'elles sont plus proches des chevalets. Là, ça veut dire que Mersenne n'a pas compris très bien comment la corde peut donner des harmoniques, en fait, pour le dire en termes d'aujourd'hui. Or, puisque chaque son est déterminé quant au grave, ou à l'aigu par le nombre de battements de l'air et que la corde ne le peut battre qu'un certain nombre de fois dans un même temps, il est nécessaire que l'air, ayant été battu, se réfléchisse sur la corde et qu'en faisant son retour, elle lui donne un nouveau mouvement. Ce que l'on peut concevoir en deux manières, car on peut dire que l'air a une plus grande tension, c'est-à-dire qu'il est tellement disposé que quand il est frappé, il va plus vite et à ses retours plus fréquents que la corde. Ou bien on peut dire que l'air ayant été frappé et envoyé par exemple à côté droit de la corde revient après qu'elle s'en va à main gauche, de sorte qu'elle le trouve en chemin et qu'elle le repousse pour la seconde fois en lui ajoutant un nouveau mouvement afin qu'il fasse désormais l'octave en haut avec le mouvement et le son naturel de la corde qui garde toujours un même temps pour un même nombre de retours tandis que l'air fait deux retours contre un. Bref, c'est l'air qui fait les harmoniques, c'est pas la corde. C'est complètement faux. D'ailleurs, on voit bien qu'il est embarrassé. Il cherche une explication. Et Mersenne, ayant conscience qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans la compréhension du phénomène des harmoniques, envisage d'autres explications. Ce genre d'hésitation est tout à fait coutumier chez le père Minime. J'ai mis, ainsi n'excite-t-il pas l'explication par l'atomisme de son ami Beckmann. Ou alors, on peut peut-être passer ça si on est pressé, je ne sais pas, on aura d'autres choses à faire. Enfin, Beckmann pensait que le son était fait de corpuscules, on est allé jusque-là, et Descartes disait de Beckmann que c'est ridicule. Descartes était méchant, comme vous le savez, assez, et il disait, Beckmann a eu une conception ridicule, et pourtant c'était son ami, c'est lui qui l'avait poussé à faire le compendium musical. Enfin, il a une conception ridicule de la transmission sonore. Donc, Mersenne qui avale tout, éventuellement, est prêt aussi à apprendre ça. Il ne lui échappe pas au passage que cette conception n'explique pas tous les partiels, que tous les partiels ne soient pas perçus. Et ça, c'est important, vous voyez. Or, si l'on suppose que la corde entière contienne tous les sons qui peuvent être faits par sa division, il faut dire qu'elle fait seulement paraître ceux qui viennent de la première, seconde ou troisième bisection. Ça, c'est très très important, mine de rien, parce qu'on le retrouvera chez Rameau, et c'est grâce à cela, à mon avis, et ça n'a pas été assez souligné, mais il y a des gens qui l'ont dit aussi, hein, il n'y a pas que moi, par exemple, ce fameux Muzzini dont j'ai parlé le dit très bien, que c'est grâce à cela que la théorie musicale de Rameau tient. Si on acceptait que tous les harmoniques peuvent être entendues, la théorie musicale de Rameau ne tient pas. Bah, évidemment, si vous avez la septième harmonique, et si vous l'entendez aussi bien que la cinquième, vous entendez la septième, donc vous devez justifier la septième, vous voulez dire justifier plus ou moins. Enfin, en principe, non, dans l'harmonie tonale, ça s'arrête, on n'admet pas la septième, c'est une dissonance. Cela est plus important qu'il n'y paraît, cette restriction, donc c'est ce que je viens de dire. Enfin, notre minime refuse une explication farfelue. Oui, c'est pour la couleur du personnage, je vous dis que ce Mersenne est amusant. Quelques-uns ont recours aux différentes surfaces de la corde pour expliquer tous ces sons et disent que le milieu fait un son différent de celui que fait la surface extérieure. Mais il n'y a nulle apparence de croire que la corde soit divisée en plusieurs cylindres concaves qui couvrent le cylindre convexe du milieu, comme les peaux d'oignon se couvrent les unes les autres. Vous voyez que c'est assez coloré, c'est assez plaisant quand on lit ça. Et bien que la corde fût issue de ces différents cylindres, elle ne pourrait faire des sons différents si elle ne frappait l'air 1, 2, 3, 4, 5 fois en même temps, ce qui n'est pas plus aisé à expliquer par la multitude de ces cylindres. C'est assez amusant. Alors, peut-être un mot sur Galilée, mais là je pense que... oui, on a du temps quand même. Dans les Discorsi, donc, il faudrait peut-être donner le titre exact, je l'ai à la fin. Donc le titre exact, vous le voyez ici écrit en bas, et Discorsi et discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles attenantes, enfin, touchant la mécanique et le mouvement local. Donc c'est la mécanique et le mouvement local, c'est une expression aristotélicienne, ça veut dire le mouvement, mais le mouvement dans le lieu, selon le lieu, parce que chez Aristote le mouvement pouvait avoir lieu selon la couleur, par exemple. Si ça passe d'une feuille d'arbre passe du vert au jaune, elle a un mouvement coloré. Donc le mouvement local, c'est le mouvement dans le lieu. Et il y a ce reste d'aristotélisme dans le titre de Galilée qui pourtant est totalement opposé à Aristote. Donc si on revient ici, c'est à la fin de la première journée et Galilée donne une explication particulièrement claire, à mon avis, de ce qu'on a appelé, de ce que les théoriciens de l'acoustique musicale appellent la coïncidence des coups, la théorie de la coïncidence des coups. La théorie de la coïncidence des coups, peut-être devrais-je sauter à toute vitesse sur un schéma qu'on a chez Euler. Alors, excusez-moi, on va aller très très vite. On va tout passer en revue, vous voyez tout ce que je vais dire, mais je voudrais quand même vous pas dire, je voudrais aller là, voilà, ça. Parce que à l'époque de Galilée, de Mersenne, etc., et Descartes, même Descartes, ça se trouve dans une lettre de Descartes à Mersenne, ça, de 1731, je crois, une chose comme ça. Vous avez cette figure qu'on retrouve chez Euler, dans son Tentamen, son essai de musique, et également dans les lettres à une princesse d'Allemagne. Donc, vous avez cette figure qui représente le son. Le son est formé de coups. Et voici figure 1, c'est un son. Alors, des coups qui suivent, comme ça, qui viennent frapper le tympan. Figure 2, vous avez un son et son octave. Alors, en bas, le 1, c'est le son, et puis le 2, c'est l'octave qui fait deux coups pendant que l'autre, ça en fait 1. Ensuite, le son et la quinte de l'octave au-dessus, 1, 3. Et puis, en bas, par exemple, vous avez 2, 3, c'est la quinte, donc qui a rapport 3, 2. La quinte de sol, do, sol, c'est 3, 2. Donc, et on s'imagine à cette époque-là que le son vient faire des coups. La corde vibre, en vibrant, elle chasse l'air, et l'air vient cogner le tympan et fait des coups. Et alors, si les coups coïncident, plus les coups coïncident, plus c'est consonant, parce que ça choque moins l'oreille. Et plus il y en a de non-coïncidents, plus c'est dissonant. Et alors, il y a tout simplement ça. Donc, on revient maintenant à la théorie de... très rapidement sur Galilée, parce qu'il faut que je vois quand même le temps passe. Donc, Galilée... ceci, ça existe déjà en 1638, donc 1638, c'est pratiquement c'est contemporain de l'harmonie universelle, qui est 1636. Donc. Mais revenons à notre sujet principal. Ce texte de la fin de la première journée de Galilée est absolument mais fuse de génie dans tous les sens. C'est absolument magnifique. Il y a une expérience de grattage d'une plaque sur laquelle on fait des virgules. Alors Galilée fait presque un enregistrement sonore avant la lettre. On voit sur la plaque les virgules, le couteau a crissé, et on voit des choses superbes. Mais là, c'est de la théorie. Je dis que la raison première et immédiate dont dépendent les rapports des intervalles musicaux n'est ni la longueur des cordes, ni leur tension, ni leur grosseur, mais la proportion existante entre les fréquences et les vibrations. Ça, c'est très important, parce qu'avant, on ne savait pas. Il ne faut pas non plus oublier que c'est simplement à la fin du XVIe siècle que s'est dégagée la notion de fréquence d'un son. Ainsi, les Grecs anciens, qui parlaient de rapports musicaux, ils savaient que l'octave c'est 2, la quinte c'est 3,5, etc. Mais ils ne savaient pas que c'était une fréquence. Puisque Platon, par exemple, dit qu'un son est d'autant plus aigu qu'il va plus vite. Et pas du tout que c'est la vitesse du son qui est plus rapide chez Platon. C'est faux, simplement, c'est faux. Et donc c'est simplement au XVIe siècle qu'on a compris que la hauteur d'un son était liée à la fréquence. Et là, Galilée, l'exprime en toute clarté. Peut-être qu'on peut passer, mais voyez qu'il parle de coups. Ceci reverbe, alors que les stimulations, en fait, ça a été traduit, mal traduit, parce que ces stimulations, c'est percossé, c'est des coups, en fait, exercés en même temps, c'est commensurable. C'est la théorie qu'on vient de dire. C'est d'autant plus consonant que lorsque c'est commensurable. Et Galilée exprime, justement, je crois que c'est dans ce passage-là ou après, qu'il n'y a rien de plus affreux que le triton, do, fa dièse, parce que ça correspond à do, à racine de 2, puisque l'octave c'est 2 et le fa dièse se trouve au milieu de l'octave. Donc racine de 2, c'est ce qui est plus horrible, puisque c'est un nombre irrationnel, et que les coups ne peuvent jamais coïncider. Donc, tout nombre irrationnel est ignoble à entendre. Donc, alors après, la justification et la quantification de la consonance. La quinte, vous voyez, alors l'octave est aiguë, l'unisson vibrant toujours ensemble donne l'impression d'une seule corde et pour cette raison ne produit aucune consonance. La quinte, elle aussi, est agréable par le fait qu'à deux pulsations de la corde la plus grave correspondent chaque fois trois pulsations de la corde la plus aiguë. Si donc l'on compte d'après les vibrations de cette dernière, en soi c'est idiot, pourquoi compter spécialement avec simplement la corde la plus aiguë? Il aurait fallu compter les deux cordes. On ne sait pas pourquoi, là tout d'un coup. Un tiers de toutes les vibrations en lieu ensemble, ce qui signifie que deux vibrations solitaires viennent s'intercaler entre chaque couple de vibrations concordantes. Quant à la carte, ce sont trois vibrations, etc. Et donc il y a une ébauche de quantification des consonances. Et ainsi, Galilée, qu'on ne dit pas, mais enfin, à partir de ce qu'il dit, on peut dire l'octave, c'est ce qu'il y a de plus consonant, ensuite la quinte, ensuite la carte, ensuite la tierce majeure, etc. Alors j'en viens maintenant aux mémoires de Sauveur, puisqu'il fallait parler de Sauveur. Donc les textes essentiels, et puis, alors j'ai été un peu interpellé par le résumé qui avait été mis, puisque dans le résumé, que j'avais vu de loin sans me faire attention, mais évidemment, on disait qu'il y avait vibration du sable dans les tubes, Joseph Stauber met en évidence des phénomènes qui renforçaient les hypothèses hasardeuses de Mersenne. Bon, on va voir, à mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va voir ce qu'on peut en penser. Donc, quelles expériences a fait Sauveur au juste? Je dis tout à l'heure qu'il était l'inventeur du mot d'acoustique. Et dans ces... Alors, il y a toute une partie qui ne nous intéresse pas beaucoup, qui est une sorte de réforme du solfège, de faire, vous savez, avec les heptamérides, etc., les décamérides. Bon, je ne sais pas, c'est une façon de faire. C'était encore une fois une question de tempérament, mais un peu déviée. Il y a eu des choses beaucoup plus intéressantes sur le tempérament que ce qu'a fait Sauveur. Enfin, pas de bêtises non plus. En revanche, ce qui est plus intéressant, sont ces expériences sur les vibrations partielles d'une corde. Parce que là, elles peuvent donner à penser que Sauveur connaissait déjà les harmoniques. Et il utilise le terme d'ailleurs, d'harmonique. Et les organistes se réfèrent souvent à Sauveur là-dessus. Alors là, je ne sais pas si on arrive à lire très bien. C'est un peu. Oui, donc vous savez, c'est une photocopie. Donc, des sons harmoniques, j'appelle son harmonique d'un son fondamental celui qui fait plusieurs vibrations pendant que le son fondamental n'en fait qu'une. Ainsi, un son à la 12e du son fondamental est harmonique parce qu'il fait 3 vibrations pendant que le son fondamental n'en fait qu'une. Voici la table, etc. La première colonne, bon, je passe. La colonne, donc, sur cette table, on ne s'intéresse pas beaucoup. Enfin, il faudrait regarder en détail, ce n'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est ce qui apparaît dans la 2e page, on voit là, diviser la corde, donc... après avoir défini et déterminé les sons harmoniques, il reste à les faire sentir à l'oreille et même à la vue, et à en marquer les propriétés. Diviser la corde d'un monocorde en parties égales, par exemple en 5, pincer cette corde à vide, elle rendra un son que j'appelle le fondamental de cette corde. Mettez aussitôt un obstacle léger C sur une des divisions D, vous voyez, c'est la 2e figure, c'est le 2e. Sur ces divisions D, comme le bout d'une plume, si la corde est menue, en sorte que le mouvement de cette corde se communique de part et d'autre, comme ceci. Et bien en fait, vous allez la voir vibrer, non pas comme il est écrit dans la 2e figure, mais dans la figure du bas. Il va se faire en fait trois, ce que le Sauveur appelle des nœuds et des ventres. Il y aura donc 5 ventres et 4 nœuds au milieu. Donc la corde vibrera comme ça. Évidemment, les violonistes, les altistes, etc., savent très bien qu'il fait ça, mettant le doigt sur la touche à un certain endroit. Mais ils ne savent pas, d'ailleurs, que la corde se met à vibrer exactement comme la forme qu'elle a en bas. Ils pensent peut-être plutôt qu'elle vibre selon la forme qu'elle a au milieu. Mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a une très belle explication que je vais peut-être passer parce que c'est un peu long, mais qui est très très, très belle. Qui explique pourquoi la corde vibre comme ça. Elle ne peut pas vibrer autrement. C'est-à-dire que si vous mettez sur une corde de violon, sur la touche, si vous mettez votre doigt à un endroit pour faire une harmonique, vous allez avoir le reste de la corde qui va vibrer selon des ventres, en nombre, par exemple, comme la figure que vous avez en bas, ici, en bas à gauche. Et non pas comme ici, sur la figure intermédiaire que vous avez en bas. Alors l'explication de Sauveur est toute intelligente, parce que la petite partie vibre à une certaine vitesse et transmet cette vitesse à l'autre partie de la corde. Et l'autre partie ne peut vibrer que si elle se décompose comme ça en petits morceaux. Ça ne peut être que comme ça mécaniquement. C'est assez remarquable pour quelqu'un qui ne fait pas de calcul de mécanique, il n'est pas capable de faire... Alors, on pourrait dire, ça y est, Sauveur a trouvé les harmoniques, il sait ce que c'est, voilà, nous y sommes. Mais non. Oui, c'est ça. Parce que j'explique ici, Sauveur n'explique pas leur mélange. On aurait pu penser qu'il y était, d'autant plus que Mersenne, avant, avait dit qu'on entendait les harmoniques. Donc, on pouvait dire, voilà, seulement il faut Vous voyez qu'une corde peut vibrer selon le fondamental, selon une harmonique, selon une autre, mais la question est de savoir, est-ce que ça se mélange? Or, le mélange est essentiel, puisque ensuite, dans la théorie musicale de Rameau, précisément, c'est qu'on entend tout à la fois. Quand vous entendez un violoncelle qui vous joue un do grave, vous entendez le do, vous entendez l'octave, vous entendez la quinte au-dessus, dit Rameau. Donc, mais non, Sauveur n'explique pas leur mélange. Sauveur ne prend pas du tout en compte la forme de la vibration d'une corde, et pourtant Sauveur sait que les harmoniques se mélangent dans le son d'une corde. Il en ébauche même une explication du phénomène. Alors, il ne... Et j'insiste là-dessus, parce que ce n'est pas tout à fait évident, et en fait, si, parce qu'il ne tient absolument pas compte de la forme de vibration de la corde. Vous voyez que dans les schémas qu'on a eus avant, c'est juste des espèces de ventres, des... Or, une corde, précisément, selon cette forme, il y a des harmoniques, il y a telle et telle harmonique où il n'y a pas. Donc, tout est là. Or, une corde qui vibre... Alors, notre généalogiste du timbre, Muzzini, explique ça très bien en prenant plusieurs formes de cordes et en disant, voilà, pour Sauveur, ça, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Alors, pourtant, Sauveur sait que les harmoniques... il a conscience que les harmoniques se mélangent. Donc, il y a quelque chose d'assez incohérent. Là, j'ai pris ça, c'est une citation anglaise dans l'introduction des textes de Sauveur faite dans la collection de couverture jaune de Rudolf Rasch, où il dit que Sauveur appelle ça des ondulations compliquées dans une lecture à l'Académie du 6 avril 1701, et on retrouve ça dans le texte d'ailleurs publié par Rasch, et vous voyez, on peut le lire. Une corde de clavecin étant pincée, outre le son qu'elle rend, proportionné à sa longueur, à sa grosseur et à sa tension, on entend encore en même temps, quand on a l'oreille fine et exercée, d'autres sons plus aigus que celui de la corde entière, produits par quelques-unes de ses parties, qui se détachent en quelque sorte de la vibration générale pour faire des vibrations particulières. Cette complication des vibrations, alors ce terme est amusant parce que c'est déjà, en fait, ça préconise le son complexe d'aujourd'hui, le son complexe chez Helmholtz. Il y a le son simple, les sons purs, les sons simples, les sons sinusoïdaux, en fait, de vibrations sinusoïdales, et le son complexe, c'est un mélange, selon la théorie de Fourier, de vibrations sinusoïdales, une vibration pure. Eh bien, on a déjà en filigrane cette notion de son complexe. Cette complication des vibrations se peut concevoir par l'exemple d'une corde attachée par les deux bouts et lâche, comme celle des danseurs. Et alors là, l'explication... vaut pas grand-chose, car tandis que le danseur de corde lui donne un grand branle, il peut, avec ses deux mains, donner deux branles particuliers aux deux moitiés, les deux moitiés étant ainsi déterminées, on peut encore donner un branle à chacune d'elles, etc. Ainsi, chaque moitié, chaque tiers, chaque quart d'une corde, l'instrument a ses vibrations à part, tandis que se fait la vibration totale de la corde entière. C'est la même chose d'une cloche, quand elle est fort bonne et harmonieuse, mais les cloches ne sont jamais bonnes et harmonieuses, donc c'est faux. Or, tous ces sons particuliers produits par les parties de la corde ou de la cloche sont harmoniques à l'égard du son total, le moins aigu, j'entends, etc. Bon, enfin, alors, j'ai mis ici, pour élucider, mais ça, le fait de m'avoir invité, je vous remercie, parce que ça m'a servi à quelque chose personnellement, parce que j'ai élucidé cette question, me semble-t-il, de la vibration dans les tuyaux. On a beaucoup... fait d'expérience sur les cordes, mais beaucoup moins sur les tuyaux, et les tuyaux, ça apparaît beaucoup plus tard. Donc, en fait, quand Vaucanson fait son flûteur automate, on peut en parler un petit peu, il faut réserver 5 minutes, il y va à l'aveugle, pour ainsi dire. Et son explication donnée dans le texte de 1738 ne contient que beaucoup d'erreurs. Pas des choses justes aussi, enfin, beaucoup d'erreurs. Et donc, les expériences sur les tuyaux sonores sont venues plus tard. Bien sûr, on sait fabriquer des tuyaux depuis très longtemps, l'orgue est même romain, mais on ne sait pas comment ça fonctionne vraiment. Alors en fait, voilà, il est très probable que Sauveur, à ma connaissance, n'a pas fait la mise en évidence des ondes stationnaires dans les tuyaux sonores, et ces expériences ont été faites par un physicien allemand, August Kundt, et qui a été faite. Alors ça, je m'étais dit, quand j'ai lu ça, le sable, ça va être trop lourd. Ben oui. Et c'est avec une très fine poudre de lycopode, donc c'est une issue des spores de la plante du même nom, et le sable étant évidemment beaucoup trop dense. Alors j'ai trouvé ça parce que j'ai ressorti un manuel de physique de terminale, qu'on appelait la classe de mathématiques à l'époque, et Lerain et Guimiot, qui étaient très très bien faits. Je ne sais pas si les livres d'aujourd'hui sont aussi bien faits. Lerain et Guimiot étaient très bien faits, et ils consacraient tout un passage à l'acoustique. Et c'était vraiment très bien. Il y avait les sirènes, il y avait les harmoniques. Et il y a ça que je vais vous présenter. Donc c'était mon manuel de physique en terminale quand j'étais en classe de mathématiques en 1957 à Louis-le-Grand. Et voilà, donc alors, je ne sais pas si on arrive à lire. Vous avez l'expérience du tube de Kund. Vous voyez le tuyau avec un peu de poudre au milieu et on fait, avec le piston, on fait vibrer le tuyau et la poudre se répartit selon des ventres et des nœuds, en quelque sorte, comme chez Sauveur. Mais ça, c'est donc largement un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard. Et on a fait aussi une expérience plus tard, qui est plus tardive, je crois aussi, de Rubens, qui avec du gaz, avec des flammes de gaz, vous voyez ça, en bas à droite, un tuyau qui est avec des trous, et il sort du gaz butane, ou je ne sais pas quoi, et on fait, il brûle. Hein, et alors les flammes, naturellement on met un diapason, et on sonnait le diapason, et les flammes ont une différente taille correspondant au ventre et au nœud. C'est des expériences du 19e typiques, qui sont très belles. Maintenant, aujourd'hui, on a un ordinateur, on montre ça, on ne fait même pas l'expérience. C'est beaucoup moins amusant que ça. Bon, alors là, vous avez un petit schéma, mais ça ne doit pas beaucoup se lire. On trouve ça sur Internet. Donc, il nous reste du temps maintenant pour parler de Rameau. Alors, excusez-moi encore, mais je serais loin de parler de sa musique elle-même que j'apprécie, mais que je ne toucherai pas à ce sujet-là. Et donc, c'est seulement dans le nouveau système de musique théorique, donc en 1726 et non pas en 1722 déjà encore, que l'expérience de la corde qui fait entendre la 12e et la 17e majeure est décrite pour la première fois et prise comme fondement des accords consonants. Donc, voici comment s'exprime Rameau dans le chapitre 1er. Tous ces textes, vous les trouvez sur Internet sans aucune peine, mais aussi bien sûr publiés. Fait d'expériences qui servent de principe à ce système. Une seule corde fait résonner toutes les consonances, entre lesquelles on distingue principalement la 12e et la 17e majeure. Et Rameau cite Mersenne. Le père Mersenne, livre 4, les instruments, page 209. Monsieur Sauveur, il cite aussi. Mémoire de l'Académie royale des sciences, année 1701. Système général des intervalles, etc. Il cite ses sources. Comme toute personne capable de discerner ses consonances pourra s'en assurer, en pinçant l'une des plus basses cordes d'un clavecin ou en raclant la plus grosse corde d'un violoncello. Ainsi, nous croyons pouvoir proposer cette expérience comme un fait qui nous servira de principe pour établir toutes nos conséquences. Alors, ceci est très important, bien sûr. Ceci sera beaucoup mieux thématisé philosophiquement, en quelque sorte, épistémologiquement, par D'Alembert. Rameau est un musicien tout à fait remarquable, un théoricien de la musique aussi, mais n'est pas un philosophe, et vous savez d'ailleurs que Rameau et D'Alembert se sont disputés, et ça s'est mal terminé. Enfin, Rameau disant que tout se ramenait à la musique, et que les mathématiques elles-mêmes devaient s'expliquer par la musique. Le monde D'Alembert n'est pas d'accord. Mais au départ, ça a très bien commencé, et le livre que D'Alembert a publié en 1752, Les éléments de musique selon les principes de M. Rameau a mis une préface en disant qu'il était tout à fait d'accord, que c'était bien, que ça lui faisait plaisir de voir que les savants et les musiciens se donnaient la main, etc. etc. D'Alembert dit plus, donc, au point de vue théorique, c'est intéressant, et il explique que c'est la seule manière de faire maintenant, à son époque, de l'acoustique musicale, de la théorie musicale. Il y en a, alors c'est dans la préface à ces éléments de musique, j'anticipe sur D'Alembert, il y en a qui ont expliqué ça par les nombres. Et vous avez encore aujourd'hui pas mal de personnes qui vous disent que la musique c'est une question de nombres. Leibniz disait que faire de la musique c'est compter sans savoir. C'est une des phrases bien connu de Leibniz, qui est très joli. Euler a repris ça. Vous comptez, mais vous ne savez pas. C'est ça qui fait plaisir. C'est parce que vous ne le savez pas, c'est inconscient. C'est une mathématique inconsciente, arithmétique inconsciente. Et de l'envers du nombre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que compter consciemment, ça ferait plaisir? Ça avait déjà été dit avant, on l'avait déjà dit. Descartes aussi l'avait dit. Kepler, le grand Kepler, avait dit « je ne crois pas à la théorie de la coïncidence des coups ». Pourquoi est-ce que compter me ferait plaisir? Mais la musique, c'est bien, bien au-dessus de ça, ça vient du ciel. C'est céleste. Alors, toute la musique du Moyen-Âge, de toute façon, s'expliquait par la musique divine et la musique humaine, ne faisant que pâlement réfléchir à la musique divine. Alors, à cette époque, on voit que l'entourage, tout ce qui entoure, les conceptions générales philosophiques ont complètement changé. On est devenu non pas athée, mais presque, et la musique ne doit plus être expliquée par Dieu et par quelque chose de divin, comme chez Kepler, même encore chez Mersenne un petit peu, mais ça a fait son chemin. On est devenu scientifique, puis voilà, il y a une expérience, puisqu'on ne peut pas expliquer, il y a une expérience, c'est qu'on entend la 12e, on entend la 17e majeure, et voilà, on va partir de là et on va justifier. Mais toutes les explications, par les nombres, par ceci, et le traité d'Alembert est très amusant pour ça, parce que comme c'est un mathématicien, il ne peut pas s'empêcher de mettre des nombres quand même. Alors il en met plein, il y a des petites notes. Quand vous tombez sur je ne sais quoi, la 7e diminuée, quel est son rapport, etc. Alors, d'Alembert calcule, mais il le met en note. Il le met en note, vous n'avez pas à le savoir. Vous devez faire simplement à partir de l'expérience. Donc, on voit que d'Alembert, alors je reviens maintenant à Rameau, je vais revenir encore à d'Alembert, on revient à Rameau, on voit que Rameau a fait beaucoup de progrès, en quelque sorte, beaucoup de chemin, entre 1722 et 1726, puisque dans le traité d'harmonie de 1722, il n'est pas encore dans cette théorie-là. Il est dans une théorie beaucoup plus ancienne, là c'est en allemand, enfin, il ne mentionne pas les sons partiels, vous voyez, il traitait Vertenay, les sons partiels, alors les sons supérieurs, les sons partiels, les harmoniques ne sont pas mentionnés, c'est en fait la théorie des proportions qui est travaillée, et qui maintenant est étudié de manière critique avec Zarlino et Descartes. Donc on est encore dans la théorie des proportions, et donc on utilise le monocorde, etc. La dérivation des consonances vient du son des cordes qui sont ensemble, etc. Donc, je ne traduis pas, ce n'est pas très méchant, mais qui en est. C'est pratiquement encore la théorie de la coïncidence des coups, à peu près. Donc entre 1722 et 1726, Rameau a complètement changé à cet égard. Et alors j'ai mis en jaune ici que Rameau, c'est essentiel, n'entend pas la série indéfinie des partiels harmoniques, il en entend seulement trois, et cela est indispensable à cette théorie de l'harmonie. Donc voilà exactement ce qu'il dit dans la génération harmonique 1737. Jusqu'ici, le son pris pour objet physique de la musique a toujours été réputé seul et unique, lorsque cependant il est triple de sa nature, puisqu'il n'est appréciable dans quelque corps sonore que ce soit qu'à la faveur des trois sons différents qui résonnent ensemble, oui, il n'est question que de trois, selon l'exposé du chapitre précédent. Le son grave et dominant, fondamental, qu'on croit y distinguer seul, c'est très bien dit, on entend la note, c'est le fondamental, et que nous appellerons dans la suite fondamental, y est toujours accompagné de deux autres sons que nous appellerons harmoniques et avec lesquels l'octave sera comprise. Alors, voilà, c'est sur ce fondement, cette base qui est construite la théorie de Rameau. D'ailleurs, un fondement faux, à deux égards. D'une part, on entend les autres harmoniques, et d'autre part, même le fondamental peut manquer. Et pourtant, on entend le fondamental, c'est la fameuse expérience du fondamental manquant. Et si vous avez un poste à transistor minuscule qui vous joue de la musique avec des graves profonds, vous rétablirez quand même le fondamental, même s'il n'est pas là, parce que le haut-parleur minuscule n'est pas capable de donner le fondamental, mais on le rétablit. Donc, en fait, le cerveau fait beaucoup de choses. Et il rétablit notamment, la nuit, à cet égard, n'a pas complètement tort, ni Euler, c'est-à-dire qu'on fait un calcul inconscient et que quand on entend telle et telle harmonique, on peut dire, voilà, ça correspond à ce fondamental. C'est vrai. Et alors Rameau se trompe complètement sur la cause, j'ai oublié de mettre, d'enlever le A, sur la cause des mélanges de sons. En effet, voilà ce qu'il dit. Nous devons supposer l'air divisé en une infinité de particules dont chacune est capable d'un ton particulier. C'est un peu Mersenne. Lorsque, par exemple, on entend à la fois les deux sons de la quinte, dont l'un fait deux vibrations pendant que l'autre en fait trois, on ne conçoit pas comment la même masse d'air peut fournir dans un même temps ce différent nombre de vibrations. À plus forte raison encore, il se trouve un plus grand nombre de sons ensemble, au lieu qu'il est bien plus plausible d'imaginer en ce cas que chacun de ces sons naît d'une masse d'air particulière, dont le nombre de vibrations occasionne le degré du ton qui nous affecte pour l'homme. En fait, on reprend Mersenne ici, enfin l'un des Mersennes. Alors d'Alembert, j'en ai déjà parlé un peu, mais vous savez, c'était dit encore plus platement que Rameau, donc, quand vous avez dit que dans tout son, vous avez le fondamental, l'octave, la quinte de l'octave supérieure, la douzième, et la dix-septième, c'est-à-dire la tierce majeure de la deuxième octave, vous dites ça, c'est naturel, c'est dans tout son. Et donc, quand vous faites un accord parfait majeur, il contient les octaves, vous pouvez les transposer parce que vous les entendez de la même manière. Donc, quand vous jouez un octave parfait majeur, il est l'ouvrage de la nature. Et il est beau, parce que naturel, c'est beau. Enfin, ça doit être corrigé de temps en temps. Il y a aussi les monstres. Donc, je passe peut-être sur le texte de d'Alembert que voici. Ce n'est peut-être pas la peine. Il reste assez peu de temps, donc maintenant, il va rester 10 minutes. Donc, à la même époque, quelqu'un comme Euler paraît beaucoup plus en arrière, puisque il ne fait pas appel à l'expérience, mais simplement aux mathématiques. C'est des nombres, et il est probable que quand d'Alembert cite ces mathématiciens qui entassent chiffre sur chiffre pour justifier la beauté de la musique, ce sont des imbéciles, enfin, il le dit presque comme ça, il est probable que d'Alembert pense à Euler. Enfin, il a du respect pour Euler pour le reste, mais pour ça. Alors, c'était cette théorie des coïncidences des coups. Ce qui est remarquable chez Euler, c'est qu'il fait beaucoup plus, évidemment, que la théorie de la coïncidence des coups du temps de Mersenne et Galilée, c'est qu'il en fait tout un truc. D'abord, il justifie, et sans se tromper, la véritable quantification des consonances, ce qu'on n'avait jamais fait avant lui. Donc, il le justifie d'une manière qui paraît bizarre au premier abord, mais qui ne l'est pas finalement. J'ai étudié ça dans une question, mais on ne va pas le voir maintenant. Ça ramène à cette formule un peu compliquée. Et finalement, il donne des tableaux énormes. Comme voici, il entasse des tableaux, c'est vrai, mais quand même, c'est joli. Par exemple, vous avez ici un tableau qui vous montre la classification des consonances. Vous avez au deuxième degré, vous avez l'octave, 1, 2. Au troisième degré, vous avez la quinte de l'octave supérieure et puis la deuxième octave, 1, 3, 1, 4. Au quatrième degré, vous avez deux tiers, c'est la quinte, etc. Au cinquième degré, vous avez la quarte, vous avez 3, 4, j'ai mis en gras. Et puis, vous voyez qu'au huitième degré, vous avez à la fois une consonance et une dissonance. Dans la série des nombres du huitième degré, en chiffres romains, vous avez notamment 5, 6, ça, 5, 6, cinquième, c'est la tierce mineure, c'est do, mi bémol. Et vous avez 5 huitièmes, ça c'est une... c'est une sixte, ça peut être une sixte mineure ou quelque chose comme ça. Non, c'est après que ça change. Au neuvième... Non, pardon, ça c'est encore une consonance. Mais dans la même ligne, au huitième degré, vous avez 8-9. 9 huitièmes, c'est le ton majeur, c'est doré. Donc là, en fait, dans cette théorie... les dernières consonances se confondent avec les premières dissonances de la théorie tonale. Voilà, donc ça ne nous concerne pas. On va donc quitter ceci et nous avons à peu près 10 minutes pour regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ouais. Nous avons regardé le texte de Vaucanson. Je pense très rapidement. En fait, je terminerai peut-être un peu avant. On doit pouvoir le mettre en pleine page. Voilà le texte de Vaucanson, mécanisme du flûteur automate. Donc, je ne le regarderai pas dans le détail, je regarderai simplement. D'autres en parleront, donc je ne vais pas peut-être tellement en parler maintenant, mais j'ai mis des notes. Voilà, ici par exemple, j'ai mis une note. On peut lire un peu ce qui précède parce que ça vaudrait peut-être mieux. Alors, lisons. Le son étant produit d'abord par les vibrations de l'air et des particules du corps de la flûte, n'est déterminé que par la vitesse ou la lenteur de ces mêmes vibrations. Sont-elles obligées de se continuer, en temps égal, dans une plus grande quantité de particules du corps frappé, plus elles perdent de leur mouvement et par conséquent de leur vitesse, et ainsi devenant plus lentes dans le même temps, elles produisent un son moins vif, ce qui fait les tons graves, autrement les tons bas. C'est ce qui arrive lorsque les trous de la flûte sont bouchés. Oui, ce n'est pas là la véritable cause. Les vibrations dans leur origine, qui se trouvent précisément au trou de l'embouchure, sont obligées de se communiquer à toutes les particules du bois dans un même temps. Elles se trouvent donc subitement ralenties, puisque leur force se trouve infiniment partagée. La flûte donnera donc le ton le plus bas. Alors, non, c'est pas ça qui se passe. C'est ce qui se passe tout simplement, c'est que vous déterminez un ventre, vous ouvrez un trou. Là, c'est le trou qui est bouché ou ouvert, je ne sais plus, enfin, il est fermé, non. Quand vous fermez tous les trous, vous faites qu'il n'y a, il n'y a qu'une onde stationnaire unique et il ne va pas y avoir de ventre. Quand vous ouvrez un trou, vous créez un ventre de pression. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, la pression est la pression de l'air atmosphérique. Et donc, pression constante. Et donc là, ça va modifier les vibrations. Et si vous reprenez les expériences de Kundt, vous allez pouvoir voir votre... l'hycopode, votre poudre, se répartir d'une certaine manière. Et c'est pour ça, c'est à cause des ondes stationnaires que la hauteur du son change. Ce n'est pas à cause des vitesses qui pourraient se produire parce que l'air peut sortir plus vite par un trou ou plutôt par l'autre. Donc on ne peut pas dire que ce soit compris ici. Et là, c'est sans doute un peu la même chose. Oui, peut-être ici une réminiscence de la théorie des cordes vibrantes de Joseph Sauveur et de ses expériences de vibration sur les harmoniques. Là aussi, vous avez un peu cette même chose. Reprenons un peu le contexte. Quand on sera parvenu à déboucher le trou qui se trouve le plus près de l'embouchure, pour lors, ce trou partageant l'espace intérieur de la flûte en deux parties égales, les vibrations trouveront une issue dans le milieu du chemin qu'elles auraient à faire pour se continuer jusqu'au bout du tuyau. Elles sortiront donc avec la moitié plus de leur force et de leur vitesse, ayant la moitié moins de particules avec qui elles soient obligées de se partager. Elles produiront donc un son double, et ce sera l'octave. Non, ce n'est pas à cause de la force et de la vitesse qu'elles produisent l'octave. C'est parce que là aussi, quand on a ouvert un trou, on a provoqué, en fait, presque comme dans l'expérience de Sauveur, cette fameuse, ce ventre et ses nœuds. On a contraint le tuyau à vibrer en deux morceaux, et non pas en un seul. Évidemment, bon, donc là, il y a une incompréhension assez profonde, quand même, de la situation. Là, je ne sais pas ce que j'ai mis, mais je crois que je ne vais pas continuer. Oui, avec une force double, là aussi, c'est rien... De toute façon, les calculs qui ont été faits après sont quand même assez complexes, évidemment... Vaucanson ne les fait pas. C'est ce qui se pratique dans les tons de la seconde octave, où la position des doigts et l'ouverture des trous sont les mêmes que dans la première. On est obligé de donner le vent avec une double force pour produire des vibrations doublées dans un même temps. C'est vrai que quand on souffle plus fort dans une flûte, elle va sonner à l'octave. Mais ce n'est pas forcément deux fois plus fort. Que veut dire d'ailleurs deux fois plus fort? On est encore tout à fait dans le flou, vous allez y penser. Même Helmholtz, un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard, s'est trompé quand il disait que quand il a quantifié les dissonances par les amplitudes des vibrations, ben c'était faux, parce que les acousticiens aujourd'hui savent que c'est pas ça qui compte, mais que ce sont les pressions acoustiques. Enfin, c'est une terminologie d'acousticien, mais c'est beaucoup plus complexe, même que Helmholtz le pensait en 1850. Donc, évidemment, en 1738, on ne pouvait dire que des bêtises, en quelque sorte. Alors, bon, je ne vais pas continuer, ça serait idiot de s'acharner, parce que ce n'est pas là l'œuvre de Vaucanson. L'œuvre de Vaucanson est tout à fait originale et séduisante. Mais elle s'inscrit, à mon avis, dans quelque chose de plus profond, et qui fera ma conclusion. Donc je terminerai peut-être 5 minutes ou 4 minutes avant, ou 3 minutes avant, qui est que pour faire de la bonne musique, il n'y a pas besoin de bien savoir comment ça se passe. Les facteurs d'orgue ont fait des instruments absolument magnifiques, mais ils ne savaient pas vraiment comment ça se passait à l'intérieur. Même l'accord d'un orgue qui se fait donc au battement, on écoute les battements, mais on ne savait pas ce que c'était que les battements. On savait simplement que quand c'est accordé, c'est agréable à l'oreille, et ça sonne bien, et donc on peut dire, là on est à la quinte. Mais en fait, on ne savait pas ce qui se passe. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites d'une manière même pas expérimentale, enfin, pas par la pratique, c'est avant tout la pratique. Et je pense que l'expérience de Vaucanson, enfin, les automates de Vaucanson relèvent beaucoup plus de cette pratique que de la théorie. Il n'y a pas eu de théorie véritablement. Mais heureusement, pour faire de la bonne musique, il n'y avait pas besoin d'être savant. Même dans des temps anciens, on n'aurait pas fait de la musique chez les Grecs. Enfin, mais les Grecs avaient une théorie, la théorie des longueurs de cordes. Mais ils se trompaient aussi. Enfin, bon, et puis ils y ajoutaient des notions religieuses. Et ça, ces notions religieuses ont perduré. Ça a fait aussi toute la musique du Moyen-Âge. J'ai entendu récemment un très bon exposé sur la musique du Moyen-Âge et l'évolution jusqu'au chant grégorien, puis ensuite la polyphonie. C'est très intéressant de voir que tout ça s'est développé et avec certaines idées presque préconçues. Nous ne sommes plus dans ces manières-là de voir les choses. Mais ça, je pense que pour faire une très grande œuvre d'art, il y a besoin d'avoir une certaine conviction, peut-être, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit psychologique. Pour prendre l'exemple d'une passion de Bach, les passions de Bach, c'est des très grandes œuvres, mais pas forcément besoin de croire à l'histoire qui est racontée de la passion du Christ. Mais n'empêche que c'est ça qui a porté l'œuvre et qui a fait que cette œuvre est apparue. Alors c'est un peu la même chose en musique, on peut faire de très bonnes musiques, mais on peut faire des instruments, mais sans savoir vraiment comment ils fonctionnent. Maintenant on sait mieux évidemment, mais on ne fait pas forcément de la meilleure musique. Voilà.
peux pas répondre.
Est-ce que je peux répondre de façon très courte ? Il s'agit de corps sympathiques.
Je voulais juste avoir une précision. Il s'agit de corps sympathiques, en fait, des instruments à plusieurs secteurs, des instruments à frotter aussi.
Que je n'ai pas parlé de qui je
veux.
Ah oui, oui, oui. Oui, je le connais mal, mais je pense que j'ai un étudiant qui a un peu travaillé dessus. Bon, ça ne m'a pas paru apporter des choses extraordinaires et un petit peu compliquées. Si mes souvenirs sont bons, il y a un peu de platonisme dedans. Bon, alors ça. Évidemment, j'ai vu ça, moi-même un peu cartésien peut-être, j'ai vu ça d'un mauvais œil. J'aime beaucoup Platon, c'est mon philosophe préféré peut-être, mais malgré tout, pour ce qui est de la théorie, je suis un peu inquiet. Oui, oui, naturellement, j'ai un peu cherché. Alors, les textes de Mersenne, l'harmonie universelle elle-même, c'est très complexe, c'est énorme, il y a beaucoup de choses. J'avais beaucoup travaillé à un moment le livre des consonances, parce que c'est le premier livre, évidemment, qui intéresse pour la théorie. J'ai quand même été regardé pour cette question, justement, des vibrations dans les tuyaux. J'ai été regarder d'autres textes de Mersenne qu'on trouve par paresse. Je ne suis pas allé à l'université reprendre les trois volumes en facsimilé, mais on les trouve sur Internet, hein, ils sont publiés par l'université américaine. Alors j'ai regardé, effectivement, ça m'a paru, ce que vous dites me paraît juste, c'est-à-dire que Vaucanson est assez proche de dit des choses qu'on trouve déjà chez Mersenne un petit peu, et chez Mersenne on trouve beaucoup de choses, et on trouve beaucoup de choses qui parfois sont tout de même contradictoires. Par exemple, pour la théorie des cordes, Mersenne est connu comme étant celui qui, le premier, a établi expérimentalement la correspondance entre la hauteur de vibration et la fréquence de vibration et la hauteur sonore, avec un génie d'expérimentateur, puisqu'il prenait une très longue corde sur laquelle, vibrant suffisamment, elle faisait 5 mètres de long, comme ça, vibrant suffisamment long, lentement, pour qu'on puisse compter les vibrations. Alors, il comptait les vibrations, et puis ensuite, en la coupant en deux, on pouvait dire elle fait l'octave, mais on n'entendait rien, parce que c'était du dihertz, quelque chose comme ça. Et d'octave en octave, ensuite, on commençait à entendre. Et donc, il pouvait dire, vous voyez, elle fait tant de vibrations, et maintenant, moi, j'entends un fa dièse, ou je ne sais pas quoi. C'était tout à fait génial, du point de vue expérimental. Alors, j'ai été voir s'il y avait un peu la même chose sur les tuyaux sonores, mais effectivement, ça ne m'a pas paru plus que ce qu'on trouve chez Vaucanson. Il n'y a pas eu de choses qui sont aussi géniales. Il n'y a pas de choses qui frappent. Alors, je répète, je termine avec ça, des cordes, parce que d'autre part, à d'autres moments, dans d'autres passages de l'harmonie universelle, Mersenne parle des cordes, et là, il dit « je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça se passe ». Et Mersenne va même jusqu'à dire « la corde... Elle donne le son lorsqu'elle est, en haut ou en bas, mais pas au milieu. Parce que c'est très bizarre ce qu'il dit. Et il la compare aussi avec le mouvement d'un corps tombant, parce qu'à cette époque-là, Galilée a expérimenté sur la chute des corps, et donc un mouvement qu'on connaît bien, c'est le mouvement de chute des corps. Et la Mersenne dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc c'est très bizarre, parce qu'il y a un endroit où il dit, je comprends. Mais, enfin, l'harmonie universelle a été rédigée en plusieurs années, évidemment. Donc... Je suis content de savoir qu'on travaille sur l'harmonie universelle et qu'on va dépouiller cette énorme œuvre.
Oui. Beaucoup. Effectivement, ce qui m'a amené à penser à cela, ce n'est pas tant que le livre de consonance que le livre sur les instruments. Donc, ce qui dit sur la flûte, par rapport à ce que je veux dire sur la flûte, il y a peut-être un cadre à rechercher, mais je vous suis reconnaissant vraiment de soulever tout ceci. Et je me plais à vous poser une autre question, mais qui n'est pas dans le noyau dur de votre intervention. En parlant des tuyaux instrumentaux, des trucs d'orgue, vous êtes dans le son. Les remarques que je voulais vous poser, les questions que je voulais poser, sont un peu en dehors du son. Ce que nous disions au début, la diffusion du son, la propagation du son, à la fin du XVIIe siècle, une partie des expériences de la fin du XVIIe. Dans les théories musicales, je le trouve mal, et dans les grandes théories que vous avez soulevées dans la mesure où je peux les connaître un petit peu, je n'ai pas encore trouvé de réponse à une préoccupation qui est la mienne depuis des dizaines d'années. De temps en temps, elle revient, et en ce moment, depuis quelques mois, elle est présente. Et c'est celle-ci, effectivement. Vous avez fait allusion à la construction des ordres, aux facteurs et à la facteur d'ordre, et effectivement, c'est un travail éminemment empirique, apparemment, y compris la situation de l'instrument dans une nef, dans un temps, dans une église. On ne sait pas exactement pourquoi on pose ça plutôt que là. Et curieusement, au cours du 7e siècle, on trouve des remarques qui n'ont rien à voir avec la justice, mais plutôt avec le climat, avec l'humidité, mais pas du tout avec la diffusion du sang. Alors, ce qui m'intéresse un petit peu dans la facture d'ordre, il y a quelques temps, c'est à la fin du 7e année, c'est dans la facture d'ordre, mais c'est également dans l'écriture musicale. Vous êtes intéressé entre l'instrument, l'ordinologie, et puis. La diffusion du son dans une nef, est-ce que les acousticiens, les physiciens ont eu conscience et ont écrit sur cette diffusion progressive du son dans la nef, qui est souvent comparée à l'écho, mais la conception musicale entre je peux expliquer le cercle de l'écho, c'est le contraste du forte et du piano, alors que je fais allusion davantage à la dynamique de cette progression du son qui va s'éloignant, qui va se rapprochant dans une nef, et ceci en fonction de la facture même instrumentale, c'est de la création de la partie spécifique qui sera le fait de l'instrument orgue au 19e siècle et de sa musique. Et alors qu'elle est présente déjà à la fin du 17e dans certains instruments et dans certains, disons, certaines régions. Ceci, je le retrouve aussi dans certaines œuvres musicales, l'idée du 7e, organistique naturellement, alors que cette dynamique musicale se mettra en place que durant la seconde moitié du 18e siècle, à travers l'école symbolique de l'Allemagne, en particulier les Allemands. Est-ce qu'il y a des préoccupations de la part des chercheurs actuels dans les expérimentations du 7e siècle par rapport à cela?
Non, mais je ne dirais rien d'original par rapport à ce que vous dites. Je suis maintenant à la retraite et j'ai mon dernier étudiant qui a soutenu une thèse assez récemment. Enfin, étudiant, c'est un homme qui a 50 ans passé, a soutenu une thèse sur le son, et donc historique. Et alors, bien sûr, il connaît la question de l'écho, de la... De la y a eu un chapitre qui est consacré à ça, donc la notion d'écho, la notion de... Ça touche un peu. Il faudrait chercher, il y a des textes, il y a certainement, enfin vous cherchez vous-même, vous faites chercher, mais c'est très vaste. Et je pense que de toute façon, c'est un travail énorme, hein, parce que c'est très répandu, hein, c'est dans un tel texte, dans tel autre, dans tel. Il y a beaucoup de choses. Donc je ne dirais rien de plus.
Les textes pour lesquels je t'avais dit, ce sont des textes de facteurs d'ordre, de contrats.
Oui, oui.
C'est vraiment. Ouais. Mais dans les textes généraux théologiens, on ne trouve strictement rien sur cette propagation du chien, cet éloignement progressif, si ce n'est à partir de la seconde moitié.
Si vous permettez, pour laisser la place à notre prochaine oratrice, une petite question à la dame peut-être qui.
Merci. Juste une petite précision à propos des expériences de Marcel sur les corps. Est-ce que ce
serait
pas plutôt Beckmann qui faisait
ces
expériences et les communiquait
à la préparation ? Non, alors Beckmann, j'ai publié un texte il y a longtemps là-dessus. Mon attention avait été attirée par un exposé, il y a bien longtemps de ça, hein, il y a une trentaine d'années peut-être, fait par Frédéric de Buzon, qui est le traducteur du Compendium Musicae de Descartes. Et il était venu parler d'un texte tiré du journal de Beckmann, qui date de 1614, peut-être quelque chose comme ça, ce texte-là. Et Beckmann, disait mon collègue Frédéric de Buzon, qui au demeurant d'ailleurs est tout à fait remarquable, il fait de très très bonnes choses, enfin, il avait dit un peu rapidement, là, ce jour-là, que ce que dit Beckmann est une démonstration mathématique de la loi des cordes vibrantes. Alors, les cordes vibrantes, c'est que la hauteur est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Alors je suis allé voir, j'ai publié un petit texte il y a longtemps de ça, dans la revue d'Histoire des sciences, par lequel je dis que la démonstration de Beckmann ne peut être qu'illusoire. Elle ne peut être qu'illusoire, donc je vais un peu plus loin quand même. Parce que ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de physique. La corde vibre d'une certaine manière. Alors ça paraît très astucieux, tel que le fait Beckmann. Beckmann a dû expérimenter, n'empêche qu'il donne un exposé qui ressemble assez à des choses que fait aussi Descartes, par exemple sur la chute des corps. Je me souviens que mon collègue et ami Michel Blais avait remarqué ce texte en commentant Descartes sur la chute des corps. Vous savez, Descartes, donc encore une fois, termine, méprisait un peu tout le monde, y compris Galilée. Et sur les démonstrations de Galilée, monsieur Galilée fait ceci, mais moi je dis que la chute des corps, ça se passe comme ça. Et finalement, Descartes donne trois lois possibles de chute des corps. Et mon ami Michel Blais disait, ben voilà, il ne se contente pas de dire comment les corps tombent, mais comment ils tomberaient. Et Descartes aurait mieux fait quand même de mieux lire Galilée. Alors pour la vibration des cordes, c'est un peu la même chose chez Beckmann, c'est très théorique, mais ça paraît astucieux, mais c'est quand même faux.